Dieu avait un plan. On a vu aussi avec Siméon et Anne, comment que malgré leur vieillesse, que Dieu avait aussi un plan pour eux. Et aussi on a vu Marie et Joseph qui représentaient la jeunesse. Et Dieu avait un plan pour eux également. Donc Dieu a un plan pour chaque génération. Et chaque génération doit aussi respecter l'autre. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec versets 41 à 52. Et le titre de notre message ce matin, c'est « Célébration de l'homme total ». Alors, lisons ensemble Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Selon la loi, on peut voir ça dans Deutéronome 16, tout homme adulte devait célébrer 3 fêtes annuelles à Jérusalem. La Pâque, la Pentecôte et la fête des temples, ou appelée aussi la fête des tabernacles. Même si la distance empêchait un certain nombre de le faire, eh bien la plupart s'efforçaient de monter à Jérusalem pour la Pâque. En effet, la Pâque était la plus importante des 3 fêtes. C'était quoi la Pâque pour les Juifs? Eh bien, c'était la commémoration de la nuit où les Hébreux avaient échappé. Donc, échappé d'Égypte, surtout quand l'ange exterminateur vient frapper les premiers-nés d'Égypte, que ce soit les hommes ou les animaux. Donc, Dieu les avait épargnés. Et donc, la Pâque célèbre ce salut, cette délivrance de la part de l'Éternel. Joseph et Marie, comme de bons observateurs de la loi, allez donc célébrer la Pâque à Jérusalem en partance de Nazareth en Galilée. Donc, c'est dommage que nous n'avions pas une carte. J'aurais pu vous montrer. Donc, ils sortaient du nord de la Galilée et ils descendaient donc vers Jérusalem. Ou plutôt montaient, parce qu'on dit on monte à Jérusalem. Donc voilà, Joseph et Marie allaient donc célébrer la Pâque à Jérusalem en partance de Nazareth. À 12 ans, Jésus était presque un adulte. En effet, il faut savoir que chez les Juifs, on est adulte à partir de 13 ans. Là, à ce moment-là, on célèbre ce qu'on appelle la Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, qui signifie en hébreu fils du commandement. Pour le garçon, on faisait une fête, c'est-à-dire c'est le moment où le garçon devient membre à part entière de la communauté religieuse, est reconnu apte à exercer ses droits et aussi ses devoirs religieux. La fille juive, elle devient bat mitzvah à 12 ans. Il n'y a pas nécessairement de célébration à la synagogue. Étant considéré donc comme presque adulte, Jésus ne passait pas beaucoup de temps avec ses parents pendant la fête. Il était ailleurs. Ceux qui faisaient pèlerinage à la fête voyageaient souvent en caravane pour se protéger des brigands le long du chemin. Alors, les femmes et les enfants voyageaient en avant-garde et les hommes était en arrière-garde. À 12 ans donc, Jésus pouvait se trouver soit avec les femmes et les enfants en avant-garde, ou bien avec son père, Joseph, à l'arrière-garde. Ainsi donc, Joseph et Marie, chacun, pouvaient penser que l'enfant est avec l'autre. Mais en réalité, il n'était avec ni l'un ni l'autre. Il était resté à Jérusalem. La caravane est partie et Jésus est resté à Jérusalem, absorbé dans cette discussion avec les leaders religieux. Le temple était connu comme un lieu non seulement d'adoration, de sacrifice, mais c'était aussi un lieu d'apprentissage. Quand Paul a étudié au pied de Gamaliel à Jérusalem, c'était probablement dans les parvis du temple. C'était le lieu des grandes discussions théologiques. À part, donc, les docteurs de la loi, les rabbis, devaient sans doute se rassembler pour enseigner, mais aussi pour débattre des grandes vérités en eux. Et parmi les grands sujets de discussion, il y avait sans doute la question de la venue du Messie, parce que ça fait des années qu'on attendait le Messie, et qu'on étudiait, qu'on sondait les Écritures pour savoir quand finalement il allait venir, et sans doute beaucoup d'autres questions qu'il pouvait se poser, à quoi il ressemblait, etc. On savait où il devait naître, mais donc il y avait des questions de discussion. On peut donc imaginer Jésus écouter ses rabbis attentivement et ensuite leur poser des questions profondes qui devaient les intriguer. Ils vont à leur tour poser des questions à Jésus, qui va leur répondre, puis on est parti pour une longue discussion passionnante qui va durer plusieurs jours. Donc voilà le contexte. Comment Jésus est resté dans le temple. Il avait 12 ans, où est-ce que sa majorité, Joseph pensait qu'il était avec Marie, et Marie pensait qu'il était avec Joseph. Et donc Jésus qui reste dans le temple à discuter avec les docteurs, les spécialistes de la loi. À partir de cette histoire, j'aimerais tirer deux grandes leçons avec vous. En particulier, par rapport aux réactions de Marie et Joseph, et ensuite à la réaction de Jésus par rapport à cet incident qui s'est passé à la fête de la Pâque à Jérusalem. Alors lisons tout d'abord les versets 48 à 50. Il est écrit ceci: quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. On va s'arrêter là pour la première partie. Il a dit qu'ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. C'est vrai que Marie et Joseph savaient que l'enfant Jésus qu'ils avaient, c'était un enfant particulier, un enfant unique. Mais même s'ils savaient cela, il y avait beaucoup de choses qui les échappaient, qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'on n'avait jamais vu ça auparavant. Et ça ne s'est jamais vu par après non plus. Donc c'était difficile pour eux de comprendre la situation. Mais il fallait qu'ils l'acceptent. Et on voit qu'ils vont l'accepter, même lorsqu'ils ne comprennent pas. Et le premier point de notre message, c'est que les parents doivent aussi lâcher prise. Tout comme, d'une certaine manière aussi, les professeurs, les patrons, les chefs. Il peut y avoir un sentiment de doux amer de voir, par exemple, grandir ses enfants. D'un côté, on est content qu'ils grandissent et qu'ils prennent un peu de leur indépendance. Puis de l'autre côté aussi, on a peur qu'ils nous échappent et que nous perdions le contrôle. Mais malgré la douleur, malgré le chagrin, il faut que l'oisillon, eh bien, quitte le nid, déploie ses ailes et vole vers les hauteurs que Dieu a préparé ou a prévu pour lui. L'enfant doit grandir, puis assumer et remplir sa mission qui lui est propre. Chacun est unique et par conséquent, chacun a une mission unique. Personne ne peut se substituer. Ne peut se substituer à quelqu'un d'autre pour accomplir sa mission. On peut être complémentaire, mais on n'est jamais identique. Josué, par exemple, le successeur de Moïse, tout successeur qu'il était, il avait quand même une mission spécifique. Moïse avait préparé le chemin, il avait préparé le peuple, il avait conduit le peuple dans le désert, mais Josué, lui, c'est lui qui a fait entrer le peuple dans la terre promise. Et c'est pourquoi il y aura toujours un seul Moïse et aussi un seul Josué. Même Élie et Élisée étaient différents. Il peut y avoir continuité, mais il n'y a jamais de doublon ni de clone dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi chacun de nous est important. Donc chacun de nous a une place spéciale. Donc on peut dire en quelque sorte, chacun est si important que d'une certaine façon on est irremplaçable. C'est pas qu'on est indissociable, mais on est irremplaçable parce que chacun de nous a une place unique aux yeux de Dieu, une place unique dans le plan de Dieu. Oui, nous devons lâcher prise que le plus jeune puisse s'épanouir, puisse devenir à son tour grand. L'enfant n'est pas destiné à rester indéfiniment un enfant, mais il est appelé aussi à grandir. Ça, c'est par rapport à Joseph et Marie. Maintenant, par rapport à Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on peut voir le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est qu'on peut voir, tu peux être unique et pourtant mener une vie normale. Lisons un peu les versets 51-52. Il a dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dans ce passage, dans le passage que nous avons lu, pas exactement ces versets que nous avons lu tout de suite, Jésus, on peut voir que Jésus était conscient qu'il était le Fils de Dieu. Hein, il disait à son père et à sa mère, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Signifiant son Père céleste. Donc, on voit que à 12 ans déjà, Jésus était conscient qu'il était Fils de Dieu. Et bien qu'étant conscient qu'il était Fils de Dieu, il n'a pas rejeté ses parents terrestres. Il n'a rejeté ni Marie, ni Joseph. Au contraire, il s'est soumis à eux. Extraordinaire. Lui, le parfait, va se soumettre à des êtres imparfaits. Aussi merveilleux qu'il pouvait être que Joseph et Marie, je suis sûr qu'ils avaient leurs défauts. Comme vous et moi, nous avons aussi nos défauts. Nous avons tous de belles qualités, mais nous avons aussi des défauts qui peuvent sans doute irriter notre entourage. Des défauts peut-être que nous avons et dont nous ne nous rendons même pas compte. Mais que c'est l'entourage qui se rend compte de ces défauts-là, qui irrite. Et donc imaginez Jésus, lui, le parfait. Eh bien, il avait des parents imparfaits et il s'est soumis à eux. Lui qui avait plus de connaissances qu'eux, eh bien, il s'est soumis à eux. Lui qui voyait tout, qui connaissait tout, il s'est soumis à eux. Ceux-là qui étaient limités dans leurs connaissances, limités dans leurs capacités, il s'est soumis à eux. Et je trouve cela extraordinaire. Il n'a pas rejeté Joseph. Il n'a pas rejeté Marie. Et il savait que Joseph n'était pas son père biologique, si je pouvais ainsi dire. Joseph n'était que son père adoptif. Et cependant, il a respecté son père. Il est retourné vivre avec eux à Nazareth et il va se soumettre à leur autorité pendant encore 18 autres longues années. Ce n'est pas un an, ni deux ans, ni trois ans, ni quatre ans, mais 18 années. Donc, hein, 12 ans plus 18, ça, c'est jusqu'à la parole de Dieu nous dit que c'est à 30 ans que Jésus commence son ministère. Donc pendant 18 ans, il va se soumettre à eux. On pense que, bon, entre-temps, avant, c'est 30 ans peut-être que Joseph est décédé parce que l'Évangile après ne nous parle plus tellement de Joseph, on peut penser que Joseph est décédé en tout cas. Mais en tout cas, Jésus s'est soumis à eux, il est retourné vivre à Nazareth. Amen. Et donc notre appel spécial, notre vocation spéciale, ou notre relation spéciale avec Dieu, ne doit pas et ne peut pas nous amener à mépriser les autres, à mépriser notre famille ou à mépriser qui que ce soit. Certaines personnes pensent parce qu'ils occupent un certain poste, parce qu'ils ont un titre et qu'ils ne sont plus obligés de faire certaines choses que les gens normaux font. J'ai été choqué personnellement Lorsque je travaillais dans les années 90 dans un centre pour réfugiés à l'Armée du Salut, à l'époque, il y avait beaucoup de réfugiés qui arrivaient de plusieurs parties du monde, d'Europe de l'Est, d'Afrique. Et je me rappelle, je m'occupais aussi un peu de servir le repas le soir. Et j'aidais avec l'administration et aussi des aspects pratiques. Et il y avait une tournante parmi les réfugiés, on demandait aux réfugiés de faire la vaisselle. Et je me rappelle toujours cet homme à qui j'ai dit, un tel, c'est à ton tour de faire la vaisselle. Et cet homme était fâché. Moi, je suis pasteur, je ne peux pas faire la vaisselle. J'étais tellement choqué, j'ai dit, ah bon? Eh bien, mon ami, tu fais honte vraiment au pasteur. Donc, parce que cet homme était pasteur, il disait qu'il ne pouvait pas faire la vaisselle. Et donc, notre appel spécial, notre vocation spéciale, ne doit pas et ne peut pas nous amener à mépriser qui que ce soit. Mais au contraire, à les aimer davantage et à les servir davantage. Jésus, tout en donnant la priorité à son Père Céleste, parce que la priorité à son Père Céleste, ça, il le faisait. Jésus, tout en donnant la priorité à son Père Céleste, savait donner aussi du temps à sa famille. Jésus est le modèle d'équilibre parfait. Moi, l'une des choses que j'admire chez Jésus, c'est vraiment son équilibre en toutes choses. Et trop souvent, l'homme part de l'extrême à l'autre. On voit l'équilibre de Jésus. Il passe du temps dans la prière. Il se retire dans la montagne pour prier. Mais il est aussi un homme d'action. Un homme d'action, il met du temps dans la prière et aussi du temps dans l'action à faire le bien autour de lui. Du bien sans discrimination aucune. Il fait du bien à sa famille, aux Juifs en général, son peuple, sa nation, mais aussi les Samaritains. Que les Juifs méprisaient, que les Juifs détestaient. Il va faire du bien sans discrimination aussi aux Romains. Il ira manger chez les pharisiens et les docteurs de la loi, mais aussi chez le publicain Zachée. Il accordera toute son attention aux enfants, à la femme adultère, aux aveugles qui crient au secours, aux lépreux qui demandent d'avoir pitié, etc., etc. Et Jésus n'était pas qu'un enseignant et un prédicateur. Il était aussi charpentier ou maçon. Il avait appris le métier de son père adoptif. Il aurait pu dire, là, je n'ai pas besoin d'être charpentier ou maçon. Je connais ma mission. Ma mission, c'est d'être le sauveur du monde. Qu'est-ce que j'ai à faire d'être charpentier ou maçon? Est-ce que ça va me servir? Pas après. Non, et pour ça, voilà, je ne sais pas combien d'années, si c'est 18 ans ou plus, eh bien, il apprendra le métier de son père adoptif. Il sera... En fait, le mot pour charpentier, ça peut signifier aussi maçon. Il sera charpentier ou maçon. Et il va contribuer aux frais de la maison. Il va contribuer à aider, à s'occuper de ses petits frères et sœurs. Parce que contrairement à ce que dit l'Église catholique, la Vierge Marie, elle était vierge avant la naissance de Jésus. Après la naissance de Jésus, Marie a eu d'autres enfants. Jésus a mis en pratique ce proverbe, enfin cet adage, cette instruction des rabbins. Tout vrai rabbi devait avoir un métier pour subvenir à ses besoins. Et Jésus donne l'exemple. Tout comme Paul, qui était aussi faisait le temple. Hein? Paul aussi n'était pas que prédicateur, mais il était aussi faisait le temple. En travaillant donc au milieu du peuple, Jésus pouvait comprendre la situation du peuple. On le constate dans ses enseignements. Il va utiliser des illustrations de la vie de tous les jours, des illustrations simples, banales, que tout le monde peut comprendre et auxquelles ses auditeurs peuvent s'identifier tout naturellement. Jésus a mené une enfance et une adolescence normales. Il a grandi physiquement et mentalement en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, bien que il savait qu'il était fils de Dieu, qu'il avait une mission particulière à remplir, donc ça n'a pas empêché à Jésus de mener une vie normale. Et je pense que nous aussi, en tant que chrétiens, on ne doit jamais se croire ou donner l'impression qu'on est supérieur aux autres et surtout à ceux à qui nous apportons la bonne nouvelle. Parce que s'ils voient que nous sommes des extraterrestres, à ce moment-là, ils ne vont pas nous écouter non plus. Ils vont dire, ok, ça, c'est pour toi parce que toi, tu es extraterrestre et que moi, je suis un terrien. Donc, ça ne convient pas. Jésus, il a assumé pleinement notre nature, la nature humaine. Et c'est extraordinaire de voir Jésus qui se soumet à ses parents. Donc, vivons pour Dieu en lâchant prise, en ne voulant pas toujours tout contrôler. Mais en même temps aussi, en menant une vie normale, c'est-à-dire sans ostentation, sans orgueil. Et c'est cela qui sera extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse.